sommation.
Je te jure que même pas à passer mon temps à m'expliquer.
Quatrième sommation.
Ça suffit.
Troisième sommation.
D'accord.
Ok.
Nous vous rappelons donc le principe de cette émission. C'est une émission de débat en soutien au mouvement. Et surtout parce que dans ces temps, il est important de pouvoir dialoguer sur les sujets, de pouvoir se retrouver, échanger des idées, échanger nos paroles, échanger nos pensées. C'est pour ça que ce studio est ici ce soir, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ce soir, le thème, c'est l'enseignement. Vaste thème, large thème qui suscite beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de colère parfois, beaucoup d'envie pour ceux qui y participent. Donc, avec moi ce soir, nous avons quatre intervenants. À ma droite, Vava. Vava qui est surveillant.
Oui, c'est ça, oui, au lycée Monnerville.
D'accord. Et à ta droite, à toi, vient d'arriver Christine qui est...
Lycéenne, j'ai 17 ans.
Lycéenne de 17 ans, et alors du coup, tu es en quelle classe ?
Je suis en première L.
Alors parle bien dans le micro, Christine.
Ah. Oui, donc je suis en première L.
Première L, dans quel lycée ?
Gaston Monnerville.
Très bien. Et à ta droite, à toi, ou plutôt en face, se trouve Franck. Franck qui est prof de ballon, comme il me disait, ou plutôt prof de PS.
Prof de PS, oui. Au collège Homé Bateau, à Kourou.
Ok. Ouais. Et notre dernière intervenante, Sandrine ?
Oui, moi je suis professeure en UPE2A à Garonne, donc c'est-à-dire que j'accueille des élèves qui ne parlent pas français. Qui ont l'âge du collège et qui viennent d'arriver en Guyane.
C'est ça, donc pour la plupart qui sont scolarisés pour la première fois.
Ouais, qui généralement ont été très peu ou pas du tout scolarisés dans leur pays d'origine.
D'accord. Alors on vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez un micro à votre disposition à tout moment. Si vous souhaitez intervenir, vous faites signe et nous vous donnons le micro. Pour commencer cette émission, un premier thème très général. On sait que l'enseignement, c'est fonction des moyens humains, des moyens matériels. Aujourd'hui, est-ce que chacun d'entre vous a une critique, une satisfaction particulière, peut-être, des choses à évoquer sur ce sujet ? Par exemple, Franck, en tant que prof d'EPS.
Bah, nous, clairement, on dépend des installations sportives. Enfin, nous, profs d'EPS et les enfants au collège. Donc, de façon claire, on manque d'installations, d'infrastructures. On manque généralement de matériel, d'équipement. Et puis aussi, le problème majeur sur la Guyane, sur l'académie, c'est par rapport sur les compétitions sportives. Donc, le mercredi, les problèmes de déplacement qui se posent. Il y a des communes qui ne peuvent pas se déplacer parce que ça coûte trop cher. Donc les rencontres sportives sont réduites en nombre, avec de moins en moins de participants parce qu'il y a cette logique du coût du transport.
Ça touche à la question de l'isolement.
Ouais, alors oui, mais même sur des petits trajets des fois, même quand on veut rassembler des communes comme Irakoubo, Sinamari, Kourou, Cayenne, Rémy, enfin Cayenne et sa périphérie, ça pose des problèmes.
Et alors, est-ce que tu saurais, toi, aujourd'hui, identifier la source du problème ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ?
Alors, en termes de nombre, effectivement, le coût élevé des transports, bien sûr, ça, c'est une des problématiques. On ne peut pas déplacer 1000 élèves sur une manifestation quand un aller-retour entre Kourou et Cayenne coûte 800 euros en bus, par exemple. La deuxième problématique, effectivement, c'est sur les communes isolées, c'est les déplacements en pirogue, déjà, d'une part. En plus, souvent, les déplacements en pirogue ne sont pas assurés. Donc souvent, les chefs d'établissement rechignent à faire déplacer les enfants. Donc sur des grosses manifestations, alors, par exemple sur un cross académique, un chemin de Guyane de cross UNSS, on a des enfants qui viennent de Maripasoula, donc ça a un coût, puisqu'ils prennent l'avion. Souvent c'est l'établissement ou le professeur lui-même en faisant les actions qui financent ces déplacements, mais c'est vrai que les subventions d'établissement ne sont pas suffisantes, les subventions pour l'UNSS ne sont pas suffisantes, les dotations nationales ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que pour chaque académie, il y a des dotations nationales pour les déplacements et des dotations des fois de la collectivité. Et là, effectivement, par rapport aux dotations nationales, c'est largement insuffisant vu le contexte guyanais.
Et alors, ce que j'entends un petit peu, peut-être en arrière-plan de ce que tu viens de dire, c'est que pour compenser les moyens insuffisants ou les dotations insuffisantes, ça demande un investissement ou un surinvestissement des professionnels. Sandrine, je te vois hocher de la tête.
Non, clairement, en fait, dès qu'on veut obtenir la moindre aide ou le moindre financement, il faut qu'on fasse des projets à n'en plus finir et on ne sait jamais si ça va aboutir. Donc, c'est sûr que oui, on nous demande un surinvestissement qui n'est pas toujours utile en plus. Et voilà, ils prennent pas. Enfin, le contexte particulier de la Guyane n'est vraiment pas pris en compte, c'est ce que tu viens de dire, quoi. Il y a des déplacements différents de la métropole, on a besoin de plus de moyens, on a aussi des élèves qui ne sont pas forcément très scolaires, donc avec qui on a envie de faire d'autres choses, pour les intéresser et puis pas leur donner l'impression que l'école se moque d'eux. Mmh. Enfin, personnellement, j'ai souvent cette impression, hein, quand même.
D'accord.
voilà. Et voilà, donc oui, effectivement, alors, ce que disait Franck, un surinvestissement de la part du personnel des professeurs. Mmh. Enfin, pas que des professeurs, d'ailleurs.
Et toi, Christine, quand tu entends une professeure dire « on n'a pas envie de sentir que les élèves aient l'impression qu'on se moque d'eux », est-ce que c'est déjà une impression que tu as pu ressentir ?
Oh oui. Ah. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas, c'est vrai que ça arrive.
Et ça se traduit comment ? Concrètement, quand tu es dans ton lycée, quand tu es en cours, à quel moment tu te dis, tiens, là, ça colle pas, là, il y a quelque chose qu'on nous avait promis qu'on aurait en termes de qualité, en termes de présence, et ça n'y est pas. Est-ce que tu as éventuellement un exemple ou quelque chose qui pourrait traduire cette impression ?
Là, comme ça, non, j'en ai pas.
Mais pour rebondir sur le lycée...
Alors, papa, surveillant.
Par exemple, ouais, alors nous, on va dire au lycée, niveau matériel, on est quand même bien équipés. Toutes les filières ont ce qu'il faut pour travailler comme il faut, mais après le lycée sature à fond. C'était un lycée qui a été fait il y a 40 ans pour accueillir 600 élèves. On est 1200 à l'heure actuelle. Les bungalows commencent à arriver dans les cours. Il n'y a plus de place pour faire d'autres salles de classe. L'internat, c'est une catastrophe. C'est des élèves, des fois, ont l'eau marron, un robinet, parce que bah, tout est pourri. Et il y a un autre... après, quand je parle avec les gens du collège, on n'a quand même vraiment pas à se plaindre. C'est plus facile de déplacer des lycéens avec des bus, justement, sur les... C'est plus facile. Il y a beaucoup plus de subventions, je pense. Hein. Mais au niveau des voyages scolaires, c'est un peu compliqué. Alors, c'est cool, parce qu'à 10h, on mange tout ce qu'il faut. Tous les élèves vendent des pains au chocolat, des gâteaux qu'ils ont fait à la maison. C'est génial. Mais ça n'aboutit pas souvent. Voilà. C'est effectivement de l'investissement. C'est des projets qui partent. On a envie de faire un voyage scolaire, on se lance dedans, puis on se rend compte au fur et à mesure de l'année que ça commence à être compliqué parce que c'était des gros tarifs. Et généralement, là, il y en a un, par exemple, qui va tomber à l'eau, alors qu'on a vu toute l'année les élèves vendre des choses à la cour de 10 heures. Ils se sont vachement investis, puis ça n'ira jamais au bout, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Justement, quand on se dit que l'école, des fois, se fout un petit peu d'eux, je pense que c'est... Oui, c'est vrai, des fois, c'est pas évident, Guyane, de...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les professeurs dont l'investissement ne voit pas aboutir le fruit, il y a également les élèves qui
s'investissent. Ah oui, bien sûr, complètement, oui.
D'accord.
Les familles aussi.
Ouais, les familles également.
Mmh.
Ouais. Ouais, alors justement, parlons-en des familles. Parce que en Guyane, justement, la particularité, c'est une forte diversité de milieux, de cultures, de niveaux sociaux. Et en tant que professeur, en tant qu'intervenant ou en tant que lycéen, on y est confronté. C'est une spécificité à prendre en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos établissements, dans vos places de professionnels ou dans vos places d'élèves, vous trouvez que cette spécificité est suffisamment prise en compte ? Christine, je suis désolé, ça va tomber sur toi, il fallait que quelqu'un commence le débat. Dans ta classe, par exemple.
Dans ma classe, par exemple.
Est-ce que des gens ont pu se retrouver en difficulté du fait de leur origine sociale, de leur origine culturelle, de leur origine familiale?
C'est plus... par exemple, je ne sais pas, un élève n'a pas les moyens de s'acheter quelque chose, ou je ne sais pas. Et du coup, il aura toujours peur d'aller vers les spécialistes ou bien les profs pour demander, pour dire que voilà, j'ai un souci, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ils ont toujours peur du moins on a toujours peur de le faire.
C'est pas souvent facile d'avoir tous les manuels scolaires à la rentrée, par exemple pour certaines familles, parce que c'est cher. Il y en a qui sont prêtés par l'établissement, mais il y en a d'autres qu'il faut acheter. Et il y a des élèves qui n'ont pas les manuels toute l'année. Donc c'est, oui, forcément, c'est pas évident pour tout le monde. Surtout ici, on voit vachement les différences sociales, c'est très marquant.
Donc, il y aurait quelque chose à réfléchir en termes d'aide
Certainement.
Ouais.
Mais c'est, je pense que tout le monde y travaille, seulement il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr.
Et s'il y a quelqu'un autour de cette table ce soir qui est en plein front de cette diversité, c'est Sandrine,
qui est
en plein front face à cette diversité, qui agit en plein milieu.
Oui, alors par contre, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne au lycée. Nous, tout est fourni par le collège. Enfin, non, pas tout, mais les manuels sont fournis par le collège. Après, on demande juste quelques cahiers, l'uniforme réglementaire, évidemment. On voit ça qu'ici, d'ailleurs, quand même. Quoi qu'il en soit, en fait, dans tous les élèves que je reçois, il n'y a pas vraiment de différence sociale parce qu'ils viennent tous de milieux assez en difficulté. Voilà. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, l'investissement des familles, il est difficile parce que l'école met souvent une barrière. Enfin, quand on parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Déjà, ce sont des familles qui ne maîtrisent pas bien le français, mais alors on leur sort parfois des termes un petit peu trop élaborés.
Ou spécifique.
D'ailleurs, que quelqu'un qui n'est pas de la profession ne comprend pas forcément non plus, tout en étant parfaitement francophone. Voilà, donc je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire pour ça, pour que les familles se sentent accueillies dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Je ne connais pas le lycée, je connais les petites écoles, je connais le collège. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne au lycée.
Est-ce que tu as réfléchi, toi, justement, à des éventuelles solutions ou à des dispositifs à mettre en place pour permettre au sein des établissements scolaires, qu'il s'agisse de l'élémentaire, du collège ou du lycée, un meilleur accueil, une meilleure approche auprès de ces familles qui n'ont pas les codes pour accéder au dialogue aux spécificités de...
Alors, les réflexions sont nombreuses, les essais aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été fructueux, malheureusement. Toujours pareil, pour obtenir de l'argent, on nous demande de faire des projets. Pour faire venir les familles, on nous demande aussi de faire des projets. Parce qu'en fait, pour accueillir les familles, on n'est pas libre non plus de les faire entrer dans l'établissement comme ça. Il faut qu'il y ait une raison particulière, il faut organiser... soit une réunion, soit avoir un projet particulier sur la culture d'un des élèves, peut-être. Mais il faut toujours avoir l'accord du chef d'établissement qui va demander à son adjoint, qui va lui-même demander à je ne sais plus qui. Enfin bon, on va de personne en personne. Il n'y a absolument rien qui est facilité à ce niveau-là. C'est toujours le problème, parce que des solutions, on peut en avoir. Hein. On peut juste demander d'organiser... un petit déjeuner ou un repas dans la classe, mais là on n'a pas le droit parce qu'il ne faut pas manger dans les classes. Voilà, non mais sans blague, hein, c'est réellement ça. Hein.
Oui, mais ça, nous on le fait, c'est interdit, mais on le fait quand même.
Oui, alors c'est vrai qu'après on peut.
Il y a les pirates de l'éducation nationale.
Mais généralement, en fin d'année, on mange bien au lycée. Hein.
Bon, j'avais une autre question également concernant le programme et qui rejoint l'idée de la diversité. Nous suivons un programme national, édicté par le ministère de l'Éducation nationale. Ici, en Guyane, les ancêtres, les Gaulois, comme on l'a dit souvent, ça ne marche pas forcément très, très, très bien. Ce qui veut dire que pour pouvoir s'adresser à des individus, parce que les élèves restent des individus, il faut pouvoir parler un langage commun. Il faut pouvoir avoir des références communes. On parlait tout à l'heure également de ne pas se moquer des élèves qu'on reçoit, des individus qu'on reçoit en tant qu'enseignant, en tant que professeur. Est-ce qu'il y aurait des spécificités à réfléchir en termes de programme, en termes de dispositifs spécifiques à la Guyane? Je vous sens silencieux, plein de réflexions.
Non, l'identité, c'est, de toute façon, je pense que c'est un sujet qui est propice en Guyane et puis aussi en France métropolitaine, mais... Enfin, ça pose la question de la laïcité, ça pose la question d'identité, ça pose la question de plein de choses, du programme partiel en histoire. Enfin, c'est une problématique qui est large, mais clairement, y a un besoin qui se fait ressentir en Guyane parce qu'on a une identité forte. Et pour les enfants, c'est important de savoir d'où ils viennent et pour comprendre notre société aussi. Et il y a un espèce de sujet tabou des fois où on dit il faut pas sortir du programme, il faut faire ceci, cela, l'éducation civique, l'éducation à la morale, la citoyenneté, c'est beaucoup mis en avant actuellement vu les événements qu'il y a eu en France métropolitaine et dans d'autres pays européens et aussi à travers le monde. Mais la question de l'identité elle se pose bien sûr, parce que déjà d'une part, on a une identité avec plusieurs facettes ici en Guyane. C'est la créolité dans tous les sens du terme, hein, que ce soit le créole guyanais, créole antillais, le bouchiningué, puisqu'il fait partie des langues créoles aussi. Donc c'est la créolité dans toute sa splendeur. Donc cette identité-là, elle est un petit peu oubliée à l'école souvent.
Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait ? Parce que quand tu parles du fait qu'elles sont oubliées, peut-être réfléchir à des dispositifs pour les mettre en valeur.
Bah, tout à l'heure, tu parlais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les parents viennent à l'école. Déjà, quand les parents ils viennent à l'école, quand ils sont convoqués, généralement, ils pensent qu'il y a un problème. Et c'est souvent le cas. Quand les parents ils viennent à l'école, c'est parce qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'il faudrait multiplier les manifestations, pour qu'on crée notre identité au sens fort du terme ici en Guyane encore plus. Et qu'on ne reste pas dans une logique communautariste, bien sûr. Et il y a des manifestations qui se font régulièrement, où il faudrait que les parents puissent rentrer de façon plus facile dans l'établissement, voir des projets qu'ont monté les enfants, les élèves, que les familles puissent y participer aussi. Ce n'est pas tout le temps facile, parce qu'effectivement, on va dire que les projets émanent souvent d'enseignants ou d'une équipe pédagogique, et eux, il y a le programme à suivre, ça prend du temps, donc c'est difficile des fois de mener plusieurs projets debout, quoi.
J'entends deux choses dans ce que tu dis. J'entends, dans un premier temps, la place des familles au sein des établissements. En effet, ce sont souvent les professeurs qui vont être, ou les acteurs de terrain qui vont être à l'initiative des projets. Des fois, ce seront des lycéens. Et quelle place on laisse aux familles pour ça ? J'entends une deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il en est des manifestations citoyennes au sein des établissements scolaires. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à créer en Guyane quand on entend vos discours qui sont de dire qu'on ne prend pas en compte la diversité des familles, la diversité des élèves ? Quelle place on leur laisse pour des événements citoyens au sein des collèges où s'exprimerait cette diversité, où s'exprimeraient les envies de faire des choses et de porter des projets par les élèves, par les familles ?
Je veux pas m'en épuiser, mais c'est un double sens. Christine, tu vois, t'exprimer.
Normalement, le rectorat avait lancé un projet avec beaucoup d'argent pour lancer les conseils de vie collégienne, les CVC, je crois. Ça devait commencer cette année. Je crois pas que vous en avez entendu parler, non ? Non, voilà. Et ben, y avait les CVL, et là, avec beaucoup plus de pouvoir, c'est-à-dire que quand ils siègent, comment ça s'appelle déjà, le conseil d'administration, ils ont plus de postes, donc plus de pouvoir quand ils votent. Et ça devait aussi arriver au collège. Normalement, c'était prévu par le rectorat. Monsieur Guiquet, ou Gauquet, qui s'occupe de ça, avait lancé, justement, il avait demandé aux lycéens d'aller promouvoir ces trucs-là dans les collèges. Et ça devait commencer cette année. Mais apparemment, non.
J'en ai pas entendu parler. Je sais pas, Franck.
Non, dans ces termes-là, j'ai pas entendu parler. Non. Après, il y avait...
Les CVC.
Ouais, ça me dit rien.
Et toi, du coup, en tant que lycéenne, Christine, parce que depuis tout à l'heure, tu restes silencieuse, peut-être que je pose pas les bonnes questions. Est-ce que tu trouves que tu as la place, l'espace pour t'exprimer, pour pouvoir porter tes projets en tant que lycéenne ?
C'est vrai que quand on fait du théâtre, on pense qu'on a beaucoup de place. Mais par rapport à la famille... Je trouve que, du moins pour moi qui suis Saramaga, quand on convoque les parents, c'est souvent pour une connerie. Alors que qu'on pourrait aussi faire quelque chose pour que la famille soit aussi présente au sein de l'établissement.
Et impliquée dans les projets apportés.
Voilà.
Tout à fait.
Je trouve qu'ils ne sont pas assez impliqués. Puis voilà, il faudrait.
Et est-ce que tu penses que toi, tes parents seraient prêts à intervenir si on leur demandait de faire quelque chose Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils proposeraient ?
Mes parents ?
Ou ta famille, ou d'autres adultes qui aimeraient peut-être s'investir davantage dans l'école ?
On n'en a pas discuté, mais je pense qu'il doit y avoir deux ou trois personnes qui voudraient bien participer et savoir comment ça se passe au lycée. Et pas que sur Pronote.
qui aimeraient bien savoir ce qui se passe au lycée, parce que du coup, ils ne le savent pas.
Ils ne le savent pas, non.
Donc c'est un problème de communication.
Voilà.
Du lycée vers les familles ou de la famille vers
les
le
deux.
Lycée
Les deux.
Et alors, comment est-ce qu'on peut le régler, ce problème-là?
Je sais pas.
Aujourd'hui, pas d'idée.
Pas d'idée.
Bon. Mais alors, du coup, toi qui es aujourd'hui en formation de première, tu as sûrement des projets pour l'avenir.
Oui.
Tu les imagines ici, en Guyane?
Ah oui, ici, en Guyane. Je voudrais devenir professeur des écoles. En Guyane, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, c'est-à-dire en métropole. Alors qu'on est là, on peut le faire, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui en Guyane? C'est un problème de formation ou c'est un problème de recrutement?
De formation, je dirais. Après, il n'y a pas longtemps qu'ils ont mis ça en place, je pense.
Ouais.
Qu'ils ont ouvert l'école, du moins à l'université.
C'est récent, oui.
Ouais. Mmh. Donc je trouve ça dommage parce que il y a des gens, ils sont là, ils aimeraient bien, mais quand ils partent en métropole, c'est vrai qu'ils réussissent pas les concours. Alors qu'ici, peut-être que ça aurait été pas plus facile, mais à leur niveau.
À leur niveau ou alors une formation adaptée quelque part aux réalités.
Adaptée, ouais, adaptée.
Ouais. Le thème de la formation en Guyane et des structures qui peuvent les porter fait souvent débat. La construction de l'université avait été demandée pendant de nombreuses années, ça a été presque un combat pour pouvoir l'obtenir. Aujourd'hui, il y a peut-être encore beaucoup de déficits et beaucoup de gens qui disent, en effet, sortie du lycée, on est obligé de quitter la Guyane, de quitter un territoire qu'on aime, de quitter une famille, de contraindre notre famille à des frais supplémentaires, à des coûts essentiels. C'est sacrément dommageable. Est-ce que vous avez pu identifier les besoins structurels, vous, en tant qu'acteur de l'éducation nationale, les besoins structurels dont la Guyane est déficitaire aujourd'hui, en termes de formation?
Clairement, il y a des manques. Souvent, quand les élèves sont en troisième, qui doivent faire leur choix, par exemple, pour aller au lycée général ou au lycée professionnel, par rapport aux filières qui sont ouvertes, il y a des élèves qui font des demandes, et ils ont leur troisième ou leur quatrième choix. Il y en a qui se retrouvent en bois alors qu'ils sont dans des froids clim. Il y en a qui aimeraient bien faire l'hôtellerie, c'est compliqué, ils sont obligés d'aller à Cayenne. Les adolescents qui sont à Kourou, par exemple, s'ils doivent se déplacer à Cayenne le matin, le bus il passe à 5h du matin. On parle pas des communes plus isolées. Bon, là, moi je parle de ce que je connais, c'est Kourou, mais je veux dire pour Sinamari, Rakubo, c'est encore pire. On est obligé de choisir certaines filières parce qu'on leur dit ouais, si tu choisis ça. Alors, on arrive dans un discours où les conseillers d'orientation ou les professeurs principaux disent aux élèves, prends pas cette filière là, t'as aucune chance de l'avoir, prends plutôt ça, au moins t'es sûr de l'avoir, alors que c'est pas réellement ça qu'ils veulent faire. Les filières sont pas nécessairement adaptées au territoire de la Guyane ou peu développées par rapport au territoire de la Guyane. Enfin, c'est très violent. Moi je crois souvent des jeunes qui ont eu le CAP avec mention bons élèves de CAP, voilà, qui étaient peut-être en souci de langue, je précise, parce que c'est pas nécessairement un souci de langue. Il y en a qui parlent très très bien, qui excellent dans la langue maternelle, mais qui des fois ont des problèmes de langue française, qui réussissent à valider un concours type CAP ou Bac Pro avant BEP, et c'était pas nécessairement ce qu'ils voulaient faire. Ils refont une demande pour un autre CAP, ils l'obtiennent pas. Ben là, j'ai récemment croisé un ancien élève, il me dit je vais m'engager à la Légion ou partir au RSMA, quoi. Les perspectives sont très limitées.
Beaucoup de jeunes finissent comme ça, se dirigent vers la Légion très facilement.
En gros, on demande aux jeunes présents en Guyane de choisir leur avenir par défaut.
Et voilà, et pour rebondir ce que tu disais, c'est aussi quand les troisièmes font des vœux, comme tu disais, il y en a beaucoup veulent partir à Élicastor, mais les places sont chères à Élicastor et très vite prises. Et du coup, des élèves qui avaient plus un profil de lycée comme un professionnel se retrouvent, manque de place dans les lycées généraux, à faire une seconde générale. Ils avaient envie de faire mécano, froid, clim ou quoi, mais il faut bien que le fleuve s'écoule, comme on dit. Il faut mettre les élèves quelque part, et on les met au lycée général, parce qu'on a trouvé de la place ici. Alors, quand ils arrivent en seconde, après, c'est plus compliqué. Ils veulent vraiment continuer à aller au lycée professionnel, donc ils font des stages à Elicastor, et après c'est plus facile pour eux d'y rentrer. Mais globalement, sur 370 secondes, on en a peut-être, allez, moi je dirais 60-70 qui n'ont rien à faire au lycée général et qui auraient dû avoir leur place ailleurs. Mais il manque, il est bien, le lycée Elicastor, mais il n'y a pas beaucoup de place en soi. Et il manque encore beaucoup de structures. Et en plus, Monerville ne pourra pas encore accueillir tous les troisièmes qui arrivent tous les ans. Et je pense que ça va.
Mais il faudrait quand même, en fait. Enfin, je pense aussi, c'est pas parce qu'il y a un élève qui est en difficulté en troisième qu'on doit lui interdire de rentrer en lycée général.
Non, pas du tout. Mais non, en tout cas, il n'a pas eu le choix d'aller au général. Lui, ouais. Il arrive, il dit moi, je voulais aller au lycée professionnel.
Ça arrive souvent qu'il y ait des élèves qui sont un peu juste en troisième et qu'on dise ouais, il n'aura pas le niveau, il peut pas aller en général, etc. Alors que son projet professionnel, ça passe pas du tout par le professionnel. C'est plutôt un projet universitaire, par exemple. Et c'est tout à fait légitime, pourquoi pas. Enfin, moi, je prends mon cas personnel, j'étais pas nécessairement en réussite quand j'étais au collège. Et jamais une seule fois, quand j'ai fait mes études en métropole, on m'a dit tu n'y arriveras pas. Alors qu'ici, souvent, on dit aux gamins tu n'y arriveras pas. Que de n'importe quelle origine.
Pourquoi on le lui dit ? Pourquoi on le lui dit ? Parce qu'on lui reproche les défauts ou parce qu'on n'a pas les structures pour pouvoir l'accompagner ?
Il y a le problème structurel, il y a le problème aussi, il faut l'avouer quand même, de manque de formation des enseignants qui sont ici, qui ne comprennent pas les codes et les difficultés qui sont ici, parce qu'il y a un turnover qui est énorme. Hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent 2, 3, 4 ans, souvent 4 ans.
On rejoint là-dessus ce que disait Christine sur le fait que les formations sont faites à l'extérieur, que les recrutements se font à l'extérieur, et qu'il y a peu de gens qui sont conscients des spécificités locales.
Tout à fait, là, l'ESP aujourd'hui, des fois, il y a beaucoup de postes, il n'y a pas assez de candidats pour passer le concours. Et pourtant, il y a de la ressource en Guyane. Il y a beaucoup de ressources. Il y a des élèves, si on ne les avait pas forcément envoyés vers du professionnel, s'ils avaient continué vers une filière générale, certainement peut-être avec un master, ils auraient pu passer le concours de professeur des écoles et réussir. Le problème, c'est vraiment un manque de place. Et du coup, vu ce manque de place, on dit « Ah, va en professionnel ». Et en professionnel, du coup, on leur dit « Ah, mais tu n'auras pas ce que tu veux. Choisis plutôt ça parce qu'il y a beaucoup de place. » Donc c'est hyper aliénant et c'est très très lourd de conséquences, quoi. Notamment pour l'estime de soi, c'est horrible.
Bien sûr.
Je vous remercie pour cette première partie de débat intéressante. Nous allons faire une petite pause musicale pour une deuxième partie qui suivra. Je rappelle encore à toutes les personnes présentes sur le rond-point de la Carapa que cette émission est participative, que le micro est ouvert et que si vous avez des questions à poser, que si le débat vous intéresse, il ne faut pas hésiter.
Écoutez, je ne vais même pas passer mon temps à m'expliquer.
Troisième sommation.
Ça suffit.
Troisième sommation.
D'accord.
Ok.